Bienvenue dans le débat. Imaginez un peu la scène. On est le 6 août 1923, à Lisbonne. Le Congrès de la République portugaise s'apprête à élire le chef de l'État. Mais l'homme qu'ils vont porter à la présidence n'est même pas présent dans l'hémicycle.
Non, il est absent, hein.
Manuel Teixeira Gomez, qui est un diplomate et un écrivain très raffiné, était élu de manière totalement absente.
C'est un point de départ qui est vraiment extraordinaire. Parce que cette absence physique, au fond, elle incarne parfaitement la situation politique du pays à ce moment-là.
Absolument.
Ce qui soulève notre question centrale d'aujourd'hui. Est-ce que cette élection d'un écrivain absent illustre un sursaut de lucidité d'un Parlement cherchant une figure neutre pour sauver le régime, ou bien la paralysie fatale d'une Première République à bout de souffle?
Alors, pour être clair sur ma position dès le départ, je soutiens que face aux émeutes et aux assassinats post-Première Guerre mondiale, contourner les politiciens traditionnels pour choisir ce diplomate d'expérience, c'était un compromis stratégique, un choix rationnel.
Et je défends la thèse inverse. Je suis convaincue que ce choix n'était qu'une capitulation par défaut, en fait. Élire un homme de lettres sans assise politique, ça condamnait l'exécutif à une impuissance totale face à l'agitation militaire ambiante.
Plongeons directement dans la mécanique de ce scrutin, parce que c'est là que tout se joue. La Constitution de 1911 exigeait une majorité des deux tiers pour élire le président.
Ce qui est énorme, oui.
C'est très difficile à atteindre. Et sur trois tours de vote, on voit le Parlement agir presque comme un conclave pour trouver ce fameux candidat providentiel.
Un véritable conclave, oui, mais enfin, sans la fumée blanche de l'inspiration divine, hein, c'est plutôt la fumée noire des compromis impossibles. Cette règle des deux tiers, nos auditeurs doivent bien le comprendre, c'est un piège mathématique mortel quand on a un Parlement fracturé en multiples petits partis.
C'est vrai que c'est contraignant, mais...
Ça transforme la moindre élection en une guerre d'usure absolue.
C'est une guerre d'usure, certes, mais dont le Parlement portugais sort par le haut. Regardez un peu l'évolution des votes. Au premier tour, Bernardino Machado, un ancien président très clivant, a 73 voix. Contre 108 pour Teixeira Gomes.
Ouais.
Mais au troisième tour, Machado s'effondre à 5 petites voix et Teixeira Gomes grimpe à 121. Le Parlement a patiemment construit un consensus pour écarter les figures trop radicales et éviter l'embrasement.
Attendez, vous parlez de consensus. Regardons tous les chiffres de ce troisième tour. Sur 195 votants, il y a 68 bulletins blancs.
C'est un moyen d'expression comme un autre ?
Mais c'est massif. Ces bulletins blancs ne sont pas un accord. C'est une arme politique de blocage. C'est la preuve d'un Parlement tellement morcelé qu'il se résigne à choisir un président au pouvoir purement honorifique. Simplement parce que personne d'autre ne pouvait franchir cette barre artificielle des deux tiers.
Même s'il s'agit d'une élection par usure, le résultat est là. Il place un intellectuel mesuré au pouvoir plutôt qu'un militaire factieux. Et c'est justement sa nature d'homme de lettres qui explique son comportement par la suite, lorsqu'il démissionne volontairement en décembre 1925.
Moins de 2 ans et demi plus tard quand même.
Oui, mais il fait preuve d'une lucidité rare à ce moment-là.
De la lucidité roux. Moi, je ne vois pas de lucidité. J'y vois un naufrage institutionnel, en fait. Confier ce siège de la présidence, qui était un véritable siège éjectable à l'époque, à un habitué des cercles littéraires londoniens, c'était le condamné d'avance.
Je ne suis pas d'accord.
Mais si, il a assisté complètement impuissant à la chute de gouvernement qui tombait parfois plusieurs fois par an. S'il démissionne, c'est parce qu'il n'a absolument aucune marge de manœuvre.
Mais c'est précisément ce que je souligne. Cet écrivain a compris que le système lui-même était incapable de dégager des majorités stables. Refuser d'être la marionnette d'un régime dysfonctionnel, c'est un acte d'une profonde lucidité politique.
Le drame, c'est que ce retrait lucide a immédiatement créé un vide du pouvoir vertigineux. En élisant un homme qui fuyait par nature les intrigues d'appareil, le Parlement croyait gagner du temps. En réalité, ils ont ouvert grand la porte au coup d'État militaire de mai 1926.
Qui ferme la parenthèse démocratique, oui.
Exactement, pour un demi-siècle.
C'est toute la complexité de cette période historique, en fait. Pour résumer ma pensée, cette élection de 1923 demeure, à mes yeux, une tentative intellectuellement noble et désespérée des élites civiles de maintenir l'équilibre républicain par le compromis.
C'est une lecture très généreuse. Mon verdict reste beaucoup plus froid, disons. Cet événement démontre implacablement que des règles institutionnelles rigides appliquées dans un climat de chaos, force mécaniquement l'élection de profils inadéquats, ce qui précipite inévitablement la chute d'un régime.
Eh bien, nos auditeurs se feront leur propre opinion sur la question, mais nous pouvons certainement nous accorder sur une chose. Le destin de cet écrivain, devenu président de la République par accident, est absolument fascinant.
Ah, complètement. C'est un cas d'école qui nous invite à méditer sur le moment fatidique où la politique civile, paralysée par ses propres règles, finit par céder le pas aux forces militaires.